Bonjour et bienvenue dans Session Lab. Aujourd'hui, c'est avec une certaine émotion que je vous emmène à la rencontre d'un artiste avec lequel j'ai grandi, de loin. Sur le passeport de ce fils du Nigeria, né en banlieue parisienne, il est écrit Samuel Adebiyi.
Taxi !
Mais vous et moi, on le connaît sous le nom de Féfé.
Ah, on est où ?
On est là !
Ok !
On est là !
On est où ?
On est là !
Ok !
On est là !
Moi je me questionne à la troisième personne, à toi de répondre si le style t'impressionne. Je me présente ici Féfé de Noisy LESC. Tu veux mon CV, vas-y tape 2 SSC. Ancien mais nouveau, jamais dans le sens du vent. Te fais pas du mal en voulant me classer, j'ai pas de rivaux. J'ai dû avaler un rhino tellement j'insistais, j'essaie. Tout seul au milieu de ces rappeurs UGC. Aucune haine, que du love c'est mon thème. Mais vu le terrain, j'ai du boulot jusqu'à ce que l'on m'enterre. Ici Alvatar, allô la terre, ai-je la permission d'atterrir? Et de vous compter mon périple élevé au tard face à la crème. C'est pas chez Candy que j'ai pleuré autant que j'ai ri. Mais de l'autre côté du périph', là où passer pour une tapette parce qu'on a mal. Hein, j'ai jamais pris la pause, j'suis pas mannequin. Mais assez parlé de moi, à la première personne, passons à la troisième. Et fais péter si t'apprécies la croisière.
Avant de préparer notre rencontre, je n'avais jamais entendu parler de son premier groupe de rap, OFX. En revanche, comme tout le monde, à l'été 2000 et au-delà, j'ai zooké sur Angela. À l'époque, j'ai 20 ans, Féfé 3 ans de plus, et avec le Saiyan Supa Crew, un collectif qui remet notamment au goût du jour le beatboxing, il vient tout casser dans le milieu du hip-hop français avec la technique de la double claque, forme drôle et fond profond. 9 ans plus tard, le Saiyan c'est fini, mais Féfé revient en solo et surprend. Le rappeur, décidément en avance sur son temps, est devenu chanteur. J'ai 30 ans, lui 33, et son premier album solo est certifié disque d'or à coup de mélodies imparables et de refrains accrocheurs.
Pas le temps pour le dance floor, faut que demain je me lève tôt, pile poil entre la relève et la remise, je suis un jeune à la retraite.
Depuis, loin des effets de mode et du rap game, Féfé mélange avec brio hip-hop old school et chansons pop fondues de swing et de soul.
Trop strict pour être un des leurs, pas assez pour ceux de mon allée.
Et le voilà aujourd'hui qui débarque en hélicoptère, titre de son 4e projet solo. C'est quelle affaire ? Un feu d'artifice musical qui enchaîne les cadences sur des textes sensibles. Féfé n'a pas peur de se montrer tel qu'il est, et moi ça me plaît.
J'appelais juste pour savoir comment ça va maman. T'es mon épaule depuis le premier jour. Tu m'as porté, c'est mon tour, vas-y prends-moi la main. Désolé pour toutes les fois où le temps je l'avais pas apparemment. Les années passent, on le voit pas, rien que l'on court. Plus t'en amasses, plus elles sont courtes, on ne bat pas la montre. Tu m'as préparé à tout brave et le léger comme le grave dans ce monde pas rond. Je suis plus un gamin, aujourd'hui j'ai l'âge d'être le parent de mes parents. Dans mon ciel comme une étoile, t'es au firmament. J'ai pas la moitié de ton éclat, tu me mets à l'amende. Brille dans mon cœur matin, soir, encore merci maman. Bientôt ce sera à mon tour d'avoir les cheveux blancs. Qui sait si je serai entouré des miens ou seul, avec mes deux mains à pleurer sur un banc. Je te parie qu'à tous les coups, elles m'appelleront un jour et d'autres non. À ce qui paraît, les chiens ne font pas des chats, la notion du temps m'échappe. Pourquoi en serait-il pour elles autrement? Comme toi, je les ai préparés à tout brave et le léger comme le grave dans ce monde pas rond. Je n'ai pas tout fait pareil, je suis pas ton égal, on fait ce qu'on peut en tant que parent. Dans leur ciel serait-je une étoile qui s'illumine ou pas? Si j'ai la moitié de ton éclat, ça ne me mine pas. En espérant que cela termine par un merci papa.
T'enregistres, monsieur Fessé?
Extérieur jour, Paris 3ème, devant les locaux de son label Vagram.
as I wear my Adidas.
Exactly.
Yeah.
Ah oui, effectivement, ben bien.
Ah ouais. C'est toi qui choisis là.
Là, au choix.
Tu veux te mettre au fond là-bas ?
Nous voici en train de nous installer côte à côte, lui dans un fauteuil en cuir, moi dans un confortable canapé.
Ouais.
À celui qui imagine encore et toujours qu'un autre monde est possible, je vais proposer d'appuyer sur pause et de rembobiner.
Et là, ça rec.
Et là, ça rec.
Et là, ça rec. On ne dit plus de conneries. Vous êtes avec Hortense Féfé sur RFI pour Session Lab.
Magnifique, on n'a même pas besoin de te demander de faire un drop. Ça y est, il est fait. Et on se refait un petit bonjour peut-être. Alors, Féfé, bonjour.
Bonjour Hortense.
Merci de nous accorder un petit peu de temps ici à Vagram.
Oui,
ton label,
oui,
ton nouveau label.
Mon nouveau label, nouvelle aventure pour la suite de cette carrière qui commence à être longue. Hein.
On va y revenir. Un beau parcours en tout cas. Alors Féfé, pour dessiner les contours de ton portrait, puisque c'est l'objet de Session Lab, j'ai choisi plusieurs objets qui tous, je crois, disent quelque chose de toi. Est-ce que tu es prêt à les découvrir ?
Je suis prêt et impatient.
Alors regarde, je vais placer plusieurs images face cachée devant toi. Voilà, des petites surprises. Et je vais te proposer de retourner l'image qui porte le numéro 1 pour découvrir donc le premier objet.
Alors tout cela se fait en live. Vous ne le voyez pas, vous, de l'autre côté, mais là sur la table, j'ai plusieurs feuilles avec des numéros. Je retourne la numéro 1. Et là, qu'est-ce que je vois ? Senseiya avec le chevalier Ikki, le chevalier du phénix.
Mais oui, il faut que tu nous racontes qui est ce personnage.
Ce personnage fait partie d'un dessin animé qui s'appelle Les Chevaliers du Zodiac. Mm-hmm. Et tous ceux qui ont mon âge.
Et le mien.
Ne se voit pas.
On est à quelque chose près. Disons qu'on est de la même génération.
Et tous ceux de ma génération savent exactement ce que sont les Chevaliers du Zodiac s'ils ont regardé Club Dorothée.
Exactement.
Et moi, j'étais devant Club Dorothée et comme tous mes potes, parce qu'après on en parlait dans la cour d'école le lendemain, je regardais les Chevaliers du Zodiac, je les regardais sauver la princesse Athéna qui avait une flèche dans le cœur et qu'il fallait sauver en battant les 12 chevaliers d'or. Voilà.
Que le fantôme du phénix te terrasse.
Donc peut-être préciser qu'il est réputé comme étant le plus puissant des chevaliers de bronze, puisqu'il y a les chevaliers de bronze, enfin les chevaliers d'or, etc.
Je vois que tu es renseigné.
J'ai révisé mes tablettes avant de venir, et qu'il est connu aussi, non pas pour ses compétences au combat, mais pour son pouvoir de résurrection.
C'est tout à fait ça.
D'où
son nom, le chevalier du phénix. Il est connu pour ça, et il m'intriguait parce qu'à la base, quand il arrive la première fois dans la série, il est vu comme un méchant. En fait. Alors qu'en fait, c'est un gentil.
Le chevalier phénix.
Et pourquoi donc j'ai choisi de te montrer cet objet, cette figurine du
cette
chevalier phénix ?
Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais mon premier nom de scène, et j'ai un peu honte de le dire, mais voilà, c'est mon premier nom de rappeur, c'était Sam le Phénix.
Sam le Phénix ?
Oui, carrément.
Ah, moi j'ai lu Phénix,
oui.
PHX,
oui.
Et puis surtout Fénixki.
Fénixi.
Mais alors c'était.
Mais mon
Sam...
tout premier nom de scène, c'était Sam le Phénix, parce que j'aimais ce pouvoir de résurrection, de pouvoir toujours revenir d'entre les morts, quoi. Et c'est un nom qui fait très pitié, mais c'est le mien.
Et ensuite il y a eu Phénix.
Et après il y a eu Fénixi.
Et donc
le Féfé. Phénix, Fénixi, Féfé, et bientôt le F.
Et bientôt le F.
Non, je rigole.
Non, parce qu'il paraît que c'est F au carré pour les
c'est
intimes.
C'est F au carré pour les intimes. Je réduis de plus en plus.
Alors, à l'époque où tu regardais les Chevaliers du Zodiac et le Club Dorothée à la télé, tu vivais, si je ne me trompe pas, dans une cité du 9-3, une cité, dis-tu, d'irréductibles Gaulois, à Noisy-le-Sec, et tu avais d'autres héros, bien réels cette fois. Ils avaient, je te cite, les comptes à zéro, des dettes et pas de super-pouvoirs. Parmi eux, ta maman, que tu qualifies sur ce titre hein, de ton premier album, Mes héros, de magicienne en milieu hostile. À quoi ça ressemblait du coup cette enfance à Noisy-le-Sec en milieu hostile ?
Ça ressemblait à beaucoup d'entraide
J'avais une seconde mère que je dédicace au passage qui s'appelait Béatrice et qui, quand ma mère devait travailler très tôt, elle ne pouvait pas m'emmener à l'école ou au centre aéré, quoi, me déposait chez elle et elle me faisait mon petit déjeuner. C'était une mère gauloise, complètement d'un autre bord, mais que j'aimais tout autant, quoi. Voilà, fallait être fort parce que voilà, quand on habite en cité, il faut toujours être fort, il ne faut pas être une victime. C'est hyper important, sinon c'est foutu pour vous après.
Et ça se grave dès l'enfance.
Ça se grave dès l'enfance, ça se gravait aussi parce qu'à la maison aussi c'était un peu compliqué avec mon père. Ça se gravait parce que ça pouvait être compliqué dehors comme ça pouvait être magique aussi. J'avais des amis incroyables, on n'avait rien mais on avait tout. Oui, mes héros, ce sont ces gens-là en fait. C'est les gens qui ont rien mais qui font tout avec 2-3 bricoles. On la main sur le cœur tout simplement. Hein, voilà, c'est toujours comme ça, c'est marrant parce que j'ai beaucoup voyagé par la suite. Et chaque fois que j'ai été dans des milieux, que ce soit des favelas, ou que ce soit des quartiers un peu plus défavorisés en Afrique, il y a toujours un peu cette même identité de gens généreux, tout simplement.
Mes héros, hein, mes vedettes, hein, on les compte à zéro. Ont des dettes et des tas de rêves enterrés. 1, 2, 3, crédit 1, boulot pour pas péter 1, boulon, etc. Non, maman n'a pas le choix. Cap sous la parcaille, tu peux rhabiller Peter Parker. C'est au pas de charge qu'elle prend son métro pour 2-3 billets. Elle a le porte-monnaie creux. Aucun laser mais le regard tu t'as mal si dans ses yeux tu lis de l'amertume. Magicienne en milieu hostile, sans thune elle élève un fils frustré qui rêve de grosse team. Dans le fond j'ai jamais été trop street, maman est un héros et moi son petit, pas besoin de costume. Non pas de film mais elles ont le premier rôle posthume. Futur hommage aux mères plus fort tu mens. Mes héros, mes vedettes, on les compte à zéro, on des dettes. Pas de super pouvoir, mais toujours là pour nous porter. C'est mes héros, je dis mes héros sont là. Là où tu ne les attends pas, souvent juste à tes côtés.
Au début des années 90, à l'adolescence, tu découvres le rap. Ça te fait quoi ?
Le rap, ça me fait... à la base, il faut savoir qu'avant même de faire du rap, moi j'écrivais des nouvelles, j'écrivais des poèmes. Mais je pensais pas du tout en faire quelque chose, c'était vraiment un à côté comme ça quoi. Et le rap en fait c'est passé par mon père aussi. Parce qu'un jour il écoutait un des derniers albums de Quincy Jones à l'époque qui avait invité des rappeurs, je ne sais plus sur quel titre. Et en écoutant ça, il me disait, écoute ça et tout, c'est la musique de ta génération. Et ça m'a marqué cette phrase-là. Je me dis, attends, c'est marrant, ils sont là. Et il y avait aussi HIPHOP, Sydney à la télé.
L'émission.
La première émission au monde.
Consacrée
au rap. Quoi. Et ça me fait aussi une possibilité de dire ce que je vis, tout simplement. Voilà, une manière de faire de la musique sans en avoir les moyens. Il y a juste besoin de ma voix et de mes mots. C'est quand même incroyable.
Et donc très vite, tu commences à écrire des raps. Tu écrivais déjà des nouvelles, d'autres formes de textes.
J'écris des raps, je commence à faire un groupe qui s'appelait OFX à l'époque.
Nous sommes en 1993, c'est ton premier crew. Je me suis demandé ce que ça voulait dire OFX du coup.
Alors là, je ne sais plus.
Je ne sais même plus.
Franchement, on était, à l'époque en tout cas, on était beaucoup. Et ça a été une grosse table ronde et on a mis beaucoup de temps à trouver et on est tombé sur OFX. Je pense que inconsciemment, il y avait un groupe qui s'appelait DazFX à l'époque.
Bien sûr,
et je pense qu'inconsciemment, il y avait un petit truc, on voulait que ça sonne un peu comme ça.
Et alors 2 ans plus tard, le groupe, on va dire, est en sommeil. Et toi, tu dis que lassé de rapper sur des instrus américaines, tu te lances dans la production et tu précises que tu l'as fait assez maladroitement. C'était pas ton truc à l'époque, la prod.
La prod, c'est le truc de, comme le rap, c'est le truc de personne tant que t'en fais pas en fait, tout simplement. Non, je me suis lancé dans la production parce que j'aime la musique intensément et que j'avais une facilité avec les notes, voilà, à comprendre les notes, à comprendre ce qui est faux, ce qui n'est pas faux. J'avais une oreille musicale, mais je ne le savais pas à l'époque. Et je me suis lancé comme ça avec un vieil ordinateur récupéré chez un mec. C'était très nul, comme les premiers textes, mais j'y mettais tout mon cœur.
Et tu y mettais tellement ton cœur que tu vas être rejoint par un autre rappeur du 9-3, et plus précisément de la cité des Bosquets à Montfermeil. Il s'appelle KLR. Ouais. Et ensemble, vous allez reformer OFX, qui sera rejoint plus tard par Vislo. Mais ça, c'est une autre histoire.
Tu es super bien renseigné.
Alors là, nous sommes en 96. Tu as 20 ans et avec KLR, vous sortez un maxi de titres qui est aujourd'hui d'après ce que j'ai compris, l'un des rares enregistrements de la voix de KLR qui est décédée tragiquement dans un accident de voiture 2 ans plus tard. Ouais. J'aimerais qu'on écoute un extrait de ce maxi, en l'occurrence le titre « Je n'ose y croire
wow. ».
Mais d'abord, j'aimerais que tu me dises, voilà, t'as dit « waouh », t'as déjà un peu répondu à la question, qu'est-ce que ce titre et son époque t'évoquent, comme ça, d'emblée ?
Ça m'évoque les nuits sans fin avec KLR à rêver, voilà. À regarder à l'époque sur M6, il passait des clips le soir et on les regardait, on se disait non mais on est aussi fort qu'eux, on est mieux qu'eux, un jour ce sera notre tour. Ça m'évoque aussi son rêve, lui il disait oui quand on sera connu, moi je serai le mec au sac à dos.
Et ça voulait dire quoi le mec au sac à dos?
Bah c'était son style, il voulait être le mec qui avait un sac à dos toujours.
Et qui restera le mec au sac à dos.
Et qui reste le mec au sac à dos, comme ça quand on le voyait on se disait ah c'est le mec qui a le sac à dos. Et c'est ce que j'ai fait après, une fois qu'il est décédé, j'ai porté le sac à dos pour lui.
En tout cas, ce que dit ce morceau, c'est l'espoir que vous placiez dans la musique, un moyen aussi de sortir du ghetto. Le vice est devenu de nos jours une passion, le sillon, donc la musique face à tous ces problèmes, ma solution.
Incroyable, je me dis, on était vraiment authentique, c'est exactement ça quoi. Je sais pas à quoi on s'attendait, mais déjà on était à deux, donc on était déjà beaucoup. ça faisait qu'on n'était pas seul et on sentait qu'on pouvait déplacer des montagnes avec ce qu'on faisait.
S'installe tout autour de moi, je perds la tête, direct, j'en perds mon émoi. Mais tu ne vois pas que le monde est en décadence veut grave. Les jeunes des cités n'y croient plus, les jeunes des cités y baissent les bras. Avoir un peu de la vie est une bonne porte de sortie. Légal, illégal, c'est bien toi qui le choisis. Le chemin d'une esquine qui ne porte de survie. Mais tu ne portes de cible pour celui qui nous survit. Un peu t'étais sauvé car le danger n'est pas loin d'ici. Tu te retrouves entre quatre murs et personne t'entend les cris. Ta famille pleure le sort de ta jeunesse sur toi.
Désormais au mi-temps des années 90. Et ce n'est pas un, mais deux objets que je te propose de découvrir maintenant en retournant l'image qui porte le numéro 2.
Alors, le numéro 2...
Oh, et il y en a deux, il y a deux images. Un beeper
et... C'est quoi ça
et... Attends, c'est dans...
C'est dans quel sens?
Dans quel sens, c'est comme ça. Tu vas reconnaître le petit logo.
Un bip. Ah, un béret Kangol.
Béret Kangol.
À l'ancienne.
Et un beeper. J'ai choisi ces objets parce qu'ils font référence à l'un de tes derniers titres qui s'appelle Génération Baladeur.
Oui, tout à fait.
Un beau vieux rap boom bap en featuring avec le leader du mythique groupe IAM, Akhenaton. Et dans lequel tu dis des bérets Kangol et des beepers toute ma jeunesse. Folk à la Peter, je suis Bob et deux balles de nègre.
Exactement.
Alors, folk à la Peter, on comprend.
C'est un jeu de mots.
Avec. Non, je pensais à Peter Gabriel du coup.
Moi, folk à la Peter Gabriel.
Ouais.
Mais folk aussi à la Peter, comme Peter Falk de Colombo.
Mais oulala, oui,
ah oui,
je l'avais pas celle-là.
Je sais, c'est.
je suis Bob. Bob.
Je suis Bob, bien sûr, Marley. Bob Marley et deux balles de nègre.
En référence à l'album 3 fois plus efficace.
Exactement.
Qui est sorti en 96 par les deux balles en compagnie des deux nègres.
Exactement.
Qui sera considéré comme un classique,
classique
du rap français.
Un classique.
Alors, on a parlé du béret Kangol, du beeper, mais dans ce titre, tu mentionnes d'autres d'autres objets tout aussi significatifs pour notre génération. Les cassettes audio,
bah oui,
en bobine, la Game Boy,
bah oui,
le Minitel.
Oui.
Et moi, concernant le béret kangol, j'avais une question. Donc la marque au kangourou, toi tu étais plutôt béret ou bob, ou tu portais les deux?
Je pouvais pas porter des bérets kangol, j'avais pas les sous pour m'en acheter. Et des bobs, ça m'allait pas. Donc j'avais ni l'un ni l'autre. Je rêvais d'avoir un petit béret kangol pour avoir du style comme les autres, mais je ne pouvais pas, mais j'en ai rêvé.
Passons maintenant, Féfé, au beeper que tu mentionnes toujours sur ce titre, Génération Baladeur. Alors pourquoi j'insiste un peu sur le beeper? Parce qu'il est arrivé en France en 95, à l'époque même où toi, tu rencontres un producteur, Also Prodby, et un DJ, DJ Fun, qui vont t'apprendre, selon ton expression, à faire du son,
oui,
vraiment, cette fois,
pour de vrai.
Et qui vont devenir les concepteurs musicaux du Siam Supa
Crew. Exactement.
C'est un collectif que vous avez formé en 97 et dont le nom fait aussi référence à un dessin animé japonais, Dragon Ball Z.
Bien enseigné.
Les Super Saiyans ont des super guerriers. C'est un groupe d'artificiers spectaculaires, de mitrailleurs verbaux, drôles et malins, qui sait tout faire. Du rap old school, festif, mais conscient, et des bons sons de zouker aussi.
Exactement.
Un groupe qui est en fait la fusion de trois autres groupes. OFX, que tu formes donc avec KLR et Vislo, Explicit Samurai, dont font partie Specta et Leroy, et Simple Spirit, qui réunit Sir Samuel et Sly.
Exactement.
C'était quoi votre idée de départ avec ce collectif, Féfé?
L'idée de départ, je m'en rappelle comme si c'était hier. Déjà, ça part par DJ Fun, parce que DJ Fun avait produit le premier maxi d'OFX quand c'était KLR et moi. Et son studio est un studio où tout le rap est passé. Quand je dis tout le rap, c'est tout le rap français est passé dans son studio. Et un jour, il y avait une compile qui se faisait, et sur cette compile, il y avait tous les membres du Siam Supa Crew, sauf Sir Samuel et Vislo à l'époque. Et DJ Fun me dit, écoute ce groupe, il vous adore, ce serait bien que vous vous rencontriez. Et là, je découvre Explicit Samurai avec KLR et on pète un câble. Tout simplement, on se dit, c'est quoi ces flows, c'est quoi ces malades, c'est des Américains dans leur tête.
Ils étaient de région parisienne aussi, de
Ils
Bagneux,
étaient de
je crois.
Bagneux, ouais. Exactement. Nous, on était de Noisy-le-Sec et Montfermeil. Donc rien à voir, pas les mêmes zones. Et on se rencontre avec Leroy. Et c'est marrant parce qu'on se voit presque comme dans un miroir. Leroy, il est un peu foufou comme moi. Et Specta et KLR, c'est les ténébreux et les bad boys un peu. Et donc, on se jauge et on finit les phrases l'un de l'autre. Et on se dit tout de suite, avec Leroy, on se dit, il faut qu'on fasse un collectif. Le meilleur collectif au monde, à la Wu-Tang, à la Flipmode Squad. À l'époque, on disait, ou Leaders of the New School, pour ceux qui connaissent encore plus loin. Et il me dit oui, bien sûr. Et de là, il me parle de Sir Samuel. Il me dit, ouais, je connais, ce serait bien qu'on ramène un mec, peut-être qui chante reggae, peut-être c'est bizarre. Je dis, mais non, mais ça défonce, ça n'a jamais été vu dans un groupe. Et sur cette compile aussi, il y avait Sly. Et pour la petite histoire, je suis désolé d'allonger, mais parce que Sly est quand même incroyable. J'entends un morceau, il me fait écouter DJ Fun, et j'entends 5 mecs qui rappent. Déjà, les 5 avec des flows différents, des voix différentes. Je fais, putain, mais c'est quoi, c'est fou, c'est malade. Il me dit, non, ça, c'est un gars. Déjà, je pète un câble. Et à la fin, j'entends des scratchs. Et je dis, ah, en plus, il est DJ. Il dit, non, il fait ça avec sa bouche. Et jusqu'à aujourd'hui, je m'en suis toujours pas remis. Et c'était Sly Johnson. Et comme par hasard, Leroy le connaissait parce qu'ils avaient fait du basket ensemble. C'était comme ça que ça se passait à l'époque. Et il me dit, bah oui, je peux l'appeler, on peut voir, voilà. Et on a commencé à se former comme ça. L'idée, c'était juste d'être le meilleur collectif au monde. De dépasser le côté, t'es de ma cité, t'es pas de ma cité. Juste de prendre des mecs forts et de faire quelque chose de fort et inédit.
Et c'est ce que vous avez fait.
Je veux pas me la raconter, mais je pense que c'est ce qu'on a fait.
Non, non tu vois, KLR, c'est Specta, moi, même, tu sais. Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire. Beaucoup, beaucoup, mais tu vois, pour les dire, c'est chaud. Donc, ce que je veux dire, c'est que mon pote, le 7ème du Saiyan, tu le sais, ça bouge pas. Et voilà, quoi. Là, on sort l'album, il va faire mal, il s'appellera KLR.
Alors, vous êtes 7 au début,
ouais.
Et vous le dites, vous le resterez, car KLR restera à jamais le 7ème membre du Saiyan. Après son décès en 98, vous vous promettez justement de tout péter dans le rap français, selon ton expression, et c'est ce que vous allez faire, effectivement, d'emblée en 99 avec votre premier album, qui s'appelle KLR et qui lui est donc dédié, et dont les textes abordent des sujets comme l'intolérance, le racisme, les drogues dures, et des textes aussi qui sont plus chantés, carrément chantés même, donc qui vous offrent un public beaucoup plus large que celui que connaît le rap français. C'est aussi ça la révolution un peu du Sayan. Album, on retrouve Angela, qui au départ, j'ai appris ça, n'était qu'une interlude sur un ancien projet.
Exactement.
Et qui va devenir le tube de l'été 2000. Il paraît qu'entre vous, vous appeliez ce morceau notre tube du ghetto. Pourquoi ?
Exactement. Parce que déjà, c'était en créole, la maison de disques n'y croyait pas, et que pour nous, c'était en fait notre plan, le vrai plan. On se disait, tous les Français, ils vont dans les dom-toms pour les vacances. Ce morceau va réussir au dom-tom parce que eux ils vont capter là-bas quoi. Et quand les Français vont revenir des vacances, ils vont dire ah, mais quand même ce petit morceau Angela, c'était marrant, c'était cool. Donc c'était ça notre but. Et en fait ça s'est pas du tout passé comme ça. Le truc a juste cartonné, on n'a rien compris.
Sur ce premier album, on retrouve aussi un titre quasi prémonitoire, Raz-de-Marée, dont tu dis que c'est ton premier son officiel. Donc c'est toi qui l'as produit.
Ouais.
Et à ce moment-là, en fait, c'est ça qui fait qu'ensuite, tu vas continuer à tenir le son
bien
du Sayan. Parce
sûr.
Que c'est ça que tu as oui. fait bah, pendant 10 ans.
J'ai fait ça avec Leroy, après qu'il m'a rejoint très vite. On a toujours été en compète, hein. Une petite dédicace à Leroy. Mais oui, c'était mon premier son fait avec un sampler. Parce que jusque-là, je travaillais avec des cartes sons, des petits sons très merdiques. Et Also Prod By et DJ Fun m'avaient appris à utiliser un sampler. Donc pendant qu'on faisait l'album, il y avait une petite pièce où il y avait le sampler. Je me suis mis dedans, je travaillais, j'ai commencé à faire ce son. Et je me rappelle encore comme si c'était hier, parce que ça m'a fait tellement plaisir. Il y a Specta qui est rentré à ce moment-là dans la pièce et qui m'a dit « Oh, c'est quoi ce son? C'est le dernier Eric Sermon !» Et je me suis retourné, mais tellement fier. J'ai dit « Non, c'est moi !» Là, il a appelé tout le monde est venu. Et voilà, et on a fait Raz-de-Marée. Et il s'est retrouvé à être en plus notre premier single, donc hyper fier.
Alléluia, si le Sayan meurt, on mourra quand Carlos courra ou quand il y aura un ouragan en Europe à Doha, où l'hippie pourra le flow et la longue comme un boa. Rap joue le balboa, athlétique comme Bilbao, comme Bora Bora, mystique tel David Bowie. Vie solo, rapide comme le vent, rien comme le vent, je couche les ignorants comme un mal devant.
Le Sayan souvent griffe le mic sans jamais soigner, rapide comme le vent, entendant les femmes enflammées. Telle une flamme de cyclone décime la masse affamée, désormais sur la plage de Raz-de-Marée. Le Sayan souvent griffe le mic sans jamais soigner, rapide comme le vent, entendant les femmes enflammées. Telle une flamme de cyclone décime la masse affamée, désormais sur la plage de Raz-de-Marée.
On avance, Féfé, on avance dans le temps. Nous voici en 2016. Le Sayan se sépare après une décennie d'office et 3 albums. Et pour nous permettre de découvrir la suite de ton histoire, je te propose de retourner l'image numéro 3. Je crois qu'elle se cache là, regarde.
L'image numéro 3. Oh, une guitare acoustique, évidemment.
Évidemment.
Cette guitare acoustique, non, genre, j'attends que tu me poses une question.
Non, c'est encore mieux si c'est toi qui nous explique.
Eh bien, on fait le dernier album de Sayan, 2007, je sens que c'est le dernier, pour mille raisons, je suis pas très content.
Hold up,
oui, dernier album. Pendant qu'on le fait déjà, je sens que c'est plus la même chose, on n'est plus les mêmes qu'au premier album, on a perdu notre innocence, on ne veut plus la même chose tous ensemble. Et on a un invité qui s'appelle Patrice, qui est un bon ami à moi, qui vient, qui me connaît très bien et qui sent que je suis un peu triste. Et je lui pose des questions parce qu'il est venu avec sa guitare. Je dis « Ah, comment tu fais ça ?» Parce que je suis curieux.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je précise que Patrice Roquetta est musicien, auteur-compositeur, chanteur. Il est à moitié sierra-léonais, moitié allemand, je crois. Et on l'a découvert au mi-temps des années 2000 avec ce tube Soul Storm.
Exactement, voilà. Très grand artiste. Il me montre 2-3 accords, il me dit « Tiens, ça tu fais comme ça, ça tu fais comme ça. » Je prends la guitare, j'ai mal aux doigts, c'est nul. Je lui rends sa guitare et il me dit « Non, tu la gardes. Comme ça, la prochaine fois où je te verrai, tu me feras des chansons. » Et je le regardais comme ça, je dis « Mais il est fou, moi je suis un rappeur, qu'est-ce que je fais ? Une guitare, c'est marrant, mais voilà. » Et finalement, l'album sort, Hold Up, on se sépare avec le Sayan. J'ai une grosse déprime, dépression, je suis triste, c'est quand même 10 ans de ma vie, quoi.
Tu as même pensé mettre un terme à ta carrière.
Moi, en fait, ma carrière, ça y est, elle était finie. Quand même, quand on a vécu quelque chose comme le Sayan pendant 10 ans, à voyager quasi dans le monde, à être connu presque dans le monde entier, de Russie jusqu'au Chili, on se dit, ça y est, c'est cool, c'est tout pour moi, merci. Et en fait, en déprimant, j'ai commencé à reprendre la guitare qui prenait la poussière, à reprendre ce que m'avait appris un peu justement Patrice et à découvrir d'autres accords. Et petit à petit, c'était plus fort que moi, j'ai commencé à faire des chansons. Voilà.
Et c'est comme ça que j'ai composé 80% de ton premier album solo avec cette guitare.
Exactement.
Ce premier album solo, il s'appelle Jeune à la retraite. C'est un disque à la fausse simplicité, j'ai envie de dire, qui emprunte aussi bien au hip-hop qu'à la pop, une pop fondue de swing et de soul. Il sort en 2009, cet album, et il est certifié disque d'or. Tu as 34 ans à l'époque, Féfé, tu viens du rap, tu te mets à chanter, et l'air de rien, tu balances dans l'été caniculaire des refrains capables d'enterrer la nuit.
Jamais, l'été serait à ton service. Ouais, mais tout a une fin, même notre histoire. Mais say goodbye.
Jeune à la retraite est un succès, ouais, aussi bien critique que public.
Ouais.
Le phénix, nous y revoilà.
Exactement.
René de ses cendres.
J'y croyais pas moi non plus. J'étais un peu surpris, franchement. Parce que cet album, je l'ai fait vraiment pour pouvoir payer mon loyer et pour pouvoir faire en faisant ce que j'aime. Et je me disais juste que j'allais... moi, je le voyais plus comme un album un peu indé que j'allais défendre avec une MPC et une guitare dans des bars. Et je me disais, c'est comme ça que je vais continuer de vivre. Et voilà, et comme ça, au moins, je continuerai à faire ce que j'aime. Et ce succès m'a un peu dépassé. Ouais, je ne m'attendais pas du tout à ça.
Et tu vas te retrouver aussi programmé sur les scènes des plus grands festivals. Et donc, retrouver un endroit, paraît-il, le seul endroit où tu te sens encore mieux qu'en studio, la scène.
Ouais.
La scène sur laquelle tu t'étais fait remarquer avec le Cyan. Ça te fait quel effet, du coup, de t'y retrouver seul?
J'avais très peur. Et c'est pour ça que j'ai emmené DJ Fun avec moi, le fameux. Je l'ai emmené sur scène avec moi parce que j'avais besoin d'une connexion avec mon passé. Voilà.
Bien sûr.
J'avais déjà peur parce que je sortais de ma zone de confort. J'arrivais, j'étais connu pour avoir du flow, être technique, et j'arrivais avec une guitare. Donc déjà, j'avais beaucoup de gens qui me regardaient de travers avant même que je sorte un premier mot, quoi. Mais en même temps, c'est ça qui est kiffant. Je pense qu'il n'y a que en sortant de notre zone de confort, en tout cas en tant qu'artiste, qu'on crée vraiment. Et je suis très fier d'avoir pris ce virage-là parce que aujourd'hui, je vois tous les rappeurs chanter. Et je me dis, comme d'hab, j'étais un petit peu en avance sur le truc, quoi. Et ça me fait plaisir.
C'est le moment de faire un nouveau bond temporel, Féfé, et de retourner la quatrième image. Nous sommes en 2017, l'année
2017.
Où sort Mauve,
oui, vert blanc vert.
Album. Et que vois-tu sur cette image?
Je vois le drapeau du Nigeria.
Voilà, vert, blanc, vert, un objet très symbolique.
Ouais.
Une référence à un de tes titres, Naija, qui figure donc sur ce troisième album et dans lequel tu chantes vert, blanc, vert comme tricolore. En référence donc au drapeau français, j'ai dans les veines deux étendards en coloc et je sais pas comment, mais tout ça rentre. Aucune préférence, on choisit pas ses parents. Tes deux parents,
c'est pas mal, j'aime bien comment c'est écrit là. Là, j'ai trouvé que c'était pas mal. Là, j'aime bien. J'aime bien quand j'écris à peu près bien.
On choisit pas ses parents parce que le Nigeria, c'est le pays de tes parents.
Mes parents, exactement. Mes deux parents sont du Nigeria, mes deux parents sont Yoruba. Et oui, j'aurais pas pu mieux le dire.
Samuel
Babatunde Tokumba Adebimi. c'est du bordel. Mais j'adore. Je suis un enfant de l'univers. Je suis africain, occidental. Je suis de tout. Et j'aime ça. Et c'est vrai, je ne sais. Putain, j'aurais pas pu mieux le dire. Je ne sais pas comment tout ça rentre, quoi. C'est la coloc. Je suis de plus en plus en paix avec mon identité. Voilà, je suis passé par mille phases. Jamais dans la haine, toujours dans l'amour. De toute façon, j'ai jamais pu détester qui que ce soit ou toute une entité. J'y arrive pas, c'est pas mon délire. Mais oui, je suis de plus en plus en paix avec cette identité. Très en paix avec mon identité française et mon identité nigériane.
Et pour ce disque qui est résolument africain, tu es parti justement sur les traces de la culture yoruba à Cuba, au Brésil et bien sûr aussi au Nigeria. Je crois que ce n'était pas la première fois, ta première fois au pays.
Non.
Mais si j'ai bien compris, tu n'as pas vécu ce deuxième voyage comme tu avais vécu le premier.
Non.
Est-ce que tu veux bien nous raconter ce qui a changé? Je crois que la première fois, tu avais 13 ans quand tu y allais. Et puis là, du coup... 20 ans de plus, même, bon, oui, 25 ans
ouais,
de plus.
Ouais, un peu plus, presque la quarantaine. Et surtout, je n'avais pas vu mon père depuis 25 ans, qui avait fait le coup de la brique de lait ou de la baguette.
Et qui vit au Nigeria. D'accord.
Donc, mon père avait disparu un peu quand j'avais 15-16 ans, quoi. Et donc, j'ai décidé de faire la paix, en fait, tout simplement, quoi. D'aller le voir pour lui dire que... On voulait pas de quoi que ce soit, que j'avais grandi, on s'en était sorti, et pour aussi faire la paix moi-même, avec moi-même, quoi. Voilà. Donc c'était un voyage un peu important pour moi et qui était le voyage de l'homme, voilà, et plus du petit enfant, quoi. Donc c'était intéressant, c'était bien.
Et c'est ce qui explique peut-être que l'amertume du titre Doux Pays, oui, qui figurait sur ton deuxième album, oui, et qui parlait du Nigeria déjà, a laissé la place à ce titre Naija, qui est un cri d'amour, un cri, ouais, d'amour euphorisant.
Aïe, ouais, Fefe, Naija, tu sais. Too far away from me, my love is on fire.
Comme une mélodie, Naija. Je te chanterai à vie, Naija.
When I say, hola, Shumbo, everybody knows I was born abroad. Everybody knows what I'm destined for. I did give you everything, never less, just more. I did call on for you, you only you. Your beauty, your strength, my people, my roots. Et mini ayo, from head down to toe.
Je suis pas né sous ton ciel, mais si le tonnerre ronde, j'envoie les éclairs.
Naija, tu sais.
Cicatrice de quand tu saignes, chiale quand tu tombes, t'as les coups, moi les séquelles.
Naija, tu sais.
J'avoue désolé, t'es pas la plus jolie, mais c'est comme ça qu'on t'aime.
Naija, tu sais.
Bien plus que les paroles, préface de mon livre, tu en es le thème.
Naija, tu sais.
Ah, say.
Too far away from me, my love is on fire.
Trop peu de souvenirs, Naija, mais jamais je ne t'oublie, Naija.
Too far away from me, my love is on fire.
Comme une mélodie, Naija, je te chanterai à vie, Naija. Vert, blanc, vert comme tricolore. J'ai dans les veines deux étendards en colloque. Et je sais pas comment, mais tout ça rentre. Aucune préférence, on choisit pas ses parents.
La magie de ce titre, fait Naija, elle tient aussi à la présence à tes côtés d'Ayo, une chanteuse allemande d'ascendance nigérienne. Tu l'avais déjà invitée sur un album d'OFX, Roots. Pourquoi et comment vous êtes retrouvés 15 ans plus tard? Me dis pas que c'est Patrice qui a fait la connexion.
Écoute, Ayo, en fait, bizarrement, est l'ex-femme de Patrice.
Tout à fait.
Il faut le savoir.
C'est pour ça que...
Il faut le savoir.
Je faisais ce petit clin d'œil.
Mais c'est même pas lui qui a fait cette connexion. C'est que, en fait, Ayo, on s'est jamais vraiment quitté, en fait. Elle a eu son succès aussi, donc je la voyais aussi. De temps en temps, on se croisait sur les festivals. Et Ayo, c'est marrant parce que c'est une de ces personnes, dès que je l'ai rencontrée, c'est comme une cousine éloignée, en fait. Ayo et moi, on dirait qu'on est de la même famille. On a des références qui sont les mêmes, parce qu'elle a été élevée aussi un peu à la nigériane.
Donc, en Allemagne.
En Allemagne, par contre. Mais donc, c'est comme une cousine éloignée. Et voilà, quoi, on se perdra jamais vraiment de vue.
Et on sent que vous avez pris beaucoup de plaisir à tourner le clip de ce morceau.
C'était super marrant.
À Lagos, c'est ça?
À Lagos, c'était chaleureux dans tous les sens du terme. Très chaud.
Mais j'insiste sur ce titre parce que je trouve qu'il est à l'image de l'album où on ressent une grande liberté. Tu vas dans le rap jusqu'à l'ego trip, mais aussi pleinement dans la balade. Et en fait, t'as pas envie de choisir entre le hip-hop ou la chanson. Et en fait, tant mieux. Et puis, tu t'amuses.
J'ai jamais voulu choisir, en fait. J'ai toujours pensé que c'était lié. Je pense qu'il me manque une case. Beaucoup de gens font des distinctions entre les genres. Moi, je vois les ponts. Il n'y a que des ponts dans la musique, en fait. Toute musique emprunte, chaque genre emprunte à un autre ou est né à cause d'une déviation d'un autre. Donc moi, je vois que les ponts et je veux faire emprunter ces ponts à un maximum de gens.
Viens même pas tester, toi et ta clique, coup de boule par terre, c'est comme ça qu'on se quitte.
C'est comme ça qu'on se quitte. Yeah.
Merde, Yoroi.
Ouais, excuse.
Il y a un souci, là.
Hein?
Leroy, il faut que je te parle.
De quoi?
Non, mais depuis tout à l'heure, ça me gratte, faut que je te parle, Leroy.
Non, mais vas-y.
Mais déjà ce matin, je te vois arriver avec ta coupe gominée, bizarre.
Non, mais je suis désolé.
On ne parle pas du pantalon XXS qui te serre, qui te moule les fesses, je comprends pas du tout.
Oui, bah c'est mes formes,
ouais. Non, c'est pas toi, Leroy. Et quand tu parles, Leroy, j'ai envie de te dire, t'as chopé une autotunite aiguë, voilà.
Bah quoi, attends, c'est relou.
Mais Leroy, Je t'ai vu hier dans un bar à chicha, tu te fous de ma gueule, je t'ai vu.
Non mais oui, bon bah c'est moi, ok, ok. Mais j'adore ça, tu le sais. J'adore l'autotune, moi, qu'est-ce que tu veux ?
2 ans après la sortie de Mo Féfé et 20 ans tout juste après le premier album du Saiyan Supakru, tu retrouves l'un de ses membres, Leroy, pour un album 365 jours et une tournée qui devait durer un an pile, 365 jours, mais qui va être écourtée par la pandémie mondiale.
Exact.
4 ans plus tard, nous voilà, Féfé. On se rencontre 2 jours avant ton 48e anniversaire. Et quelques semaines seulement avant la sortie de ton nouveau projet, c'est le moment de découvrir un dernier objet.
Dernier objet, hélicoptère, évidemment, le titre de cet album. On redécolle, c'est reparti.
Si le game est une course, j'arrive en hélicoptère.
Exact.
C'est ce que tu affirmes dès l'ouverture de ce nouvel album, qui s'appelle donc Hélicoptère. Qu'est-ce que tu veux nous dire justement par cette formule ?
Par cette formule, en fait, j'imagine... C'est une formule qui s'applique beaucoup au rap, justement, quoi. J'imagine le rap comme une course de cycliste. Et dans cette course, moi, je suis en hélico.
tu planes, quoi.
Je plane. Le mec n'a pas compris le concept d'arriver premier, tu vois. Il est plus.
Tu t'en fiches d'être Gold Game ou pas Gold Game?
Je m'en fiche. Je m'en fiche. Ça me fait rire. J'adore le rap. J'adore cette forme d'art, ce qu'on peut en faire. C'est vrai que quand je dis rap, il y a beaucoup de gens qui ont une certaine image, celle de ce qu'on entend tout le temps. Alors qu'il y a tellement de choses à découvrir. Il y a tellement d'artistes incroyables et qui jouent avec les mots, qui jouent avec le son. Et c'est ça que j'aime dans le rap. Le rap, pour moi, c'est presque comme le nouveau jazz. C'est-à-dire on peut se permettre pas tout et n'importe quoi, mais on peut se permettre tellement de choses.
Le mélange. Et en fait, c'est pour ça que tu as choisi le rap, je suppose, sans doute,
c'est
dès le
mélange.
Départ.
C'est le mélange. J'ai choisi déjà une parce que j'entendais toute la musique que mes parents écoutaient dedans.
Qui était samplée, tout simplement. Bien sûr.
Que ce soit autant du reggae à la soul, à la funk, et plus tard du classique, à n'importe. On peut tout faire avec le rap. Et j'aime cette liberté dans cette musique.
Et cette liberté, bah, tu la cries une fois de plus haut et fort. Hein. Reggaeton, dancehall, afro, électro, tu ne t'interdis rien. Ni le mélange des genres, on en parlait, ni de faire entendre tes convictions.
Ouais.
Et encore moins, nous faire danser. Et ça, c'est bon, on prend.
J'espère.
L'histoire raconte, Féfé, que la première chanson que tu as composée pour cet album, et j'ai envie de dire non des moindres, c'est Quelque part,
ouais.
Un titre en collaboration avec la chanteuse franco-brésilienne Luisa, un titre dans lequel tu racontes avec ironie ton envie d'une société plus juste, tes désillusions, tes espérances. Comment est né ce titre qui est à la fois intemporel, notamment de par sa mélodie, et terriblement actuel dans son propos?
Il est horriblement actuel parce qu'à un moment, je parle aussi des j'ai pas envie de dire guerre de religion, mais un peu, je parle un peu de ça, on peut le dire, quoi. Et quand on l'a sorti, je crois, on l'a sorti 2 jours plus tard ou 2 jours avant le 7 octobre, je sais plus quand. Donc c'était, il naît de mes frustrations avec le monde et avec moi-même. Voilà, j'ai envie de choses meilleures pour nous, pour moi. Il me fait penser aussi à un morceau qui s'appelle Man in the Mirror de Michael Jackson qui dit avant de changer le monde, il faut se changer soi. Donc il y a un peu de ça dans ça aussi, quoi.
Il faut balayer devant sa porte,
ouais,
comme on
toujours,
dirait en Afrique
toujours.
De l'Ouest.
C'est exactement ça, il faut balayer devant sa porte, quoi. Mais j'ai encore et toujours, et j'espère ne pas le perdre, de l'espoir. Voilà. De l'espoir pour changer le monde, le rendre meilleur, en me rendant meilleur, en rendant meilleur mes enfants, tu vois. J'essaye de toutes mes forces, même si en vieillissant on a de plus en plus peur, on a plus envie de se réfugier avec les siens. Et je le fais aussi, quelque part, parce que je suis qu'un homme, hein. Mais j'arrive pas à dire au revoir au monde comme ça, quoi. Je me dis, il faut que je fasse ma part, il faut que je dise ce que j'ai envie de dire, en faisant ce que je fais, justement, en mélangeant les genres. J'essaye quelque part de montrer qu'il n'y a pas de barrière, soyons ensemble, voilà, tout simplement, soyons ensemble. Pour moi, si j'ai un combat dans ma vie, c'est celui-là.
Tu as confié, Féfé, que tu ne t'étais jamais autant dévoilé sur un disque. Toi qui as déjà abordé par le passé des thèmes très personnels, je pense à la violence de ton père, à la difficulté d'être un Africain de France, pour reprendre le titre d'un de tes nouveaux morceaux, tout simplement les jours où tu n'étais pas OP.
Ouais.
À quoi tu fais allusion quand tu dis que tu ne t'étais jamais autant dévoilé ?
Très bonne question. Je pense à des... Bah, dans Africain de France, il y a certaines choses que je dis. Ce que j'aime avec ce morceau, c'est que Il y a des gens qui sont très plus du côté droite qui vont le détester. Il y a des gens qui sont plus du côté gauche qui vont le détester aussi, je pense. Parce que je pense qu'il y a autant des messages d'amour que de désillusion envers la France, tout simplement. Et que j'essaye d'être le plus juste dans mes propos. J'ai pas d'agenda politique, j'ai un agenda humain. Voilà. Et je pense que pour servir cet agenda humain le mieux possible, il faut être le plus vrai, tout simplement. Et la vérité, elle est jamais toute noire ou toute blanche. Voilà.
Merci beaucoup, Féfé, d'avoir accepté de te dévoiler pour nous, pour Session Lab. Et que cet hélicoptère que j'avais choisi en mode Playmobil, il me plaît beaucoup, cet hélicoptère.
Moi aussi.
Je sais pas, il y en a pas un sur la pochette de l'album.
Non, il y en a un fait avec mes cheveux, mais sinon, moi, j'aurais été sur un hélicoptère un peu jouet parce que j'ai toujours gardé encore mon âme d'enfant. Donc, ça me parle totalement.
Eh bien, que cet hélicoptère, Féfé, nous permette de nous retrouver, je l'espère, bientôt sur la route.
J'espère, moi aussi.
Merci beaucoup.
Tonton
David serait loué, t'as la Charles traînée. Pour l'honorer, on n'attendrait pas que trépasse Pierre Perret. Et les Cassaves seraient nos Bolloré si l'industrie de la zic en faisait quelque part. Comme l'eau tombe du ciel, on la paierait pas. Nestlé boufferait des pâtes, les iPhones seraient du genre qui se répare et te dure des années folles si l'on nous prenait pas pour des pigeons quelque part. Une fois, deux fois et allez hop, dehors. Nos élus auraient le même poids que toi, moi. Le même salaire par mois. Et nos voix vaudraient de l'or si la démocratie en était une quelque part. J'ai vécu dans un ring, gauche, droite, dans le coin. Sans jamais répondre au king, j'osais pas. Mon père c'était quelqu'un. Et je me demanderais toujours si malgré les coups, papa m'aimait quelque part. Resterait plus longtemps que le faussaire. Dubaï ne serait pas tendance malgré tous les travaux forcés. Et l'ex-président perdrait son procès s'il y avait une justice quelque part. La haine serait illégale, on s'en foutrait que tu sois gay. Nord, sud, à égalité, le fric, une folie de naguère. Et le rêve de Martin, une réalité si l'on était plus humain quelque part. Salam shalom ne donnerait pas d'armes à un homme. On n'en serait pas là, prier l'un contre l'autre, ça alors. Et tous les chants détrôneraient le bruit des calaches si Dieu s'était pas déjà barré quelque part. J'ai deux enfants faits avec amour dont j'aime m'occuper. Deux autres faits autrement qui n'auront que du pèse. Et je me demande si elles auront un jour dans le cœur de quoi me le pardonner quelque part.
Merci à Féfé d'avoir accepté de rembobiner. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur play pour écouter son nouveau projet. Et merci bien sûr aussi à mes MC à moi. J'ai nommé Benjamin Saralier qui a réalisé cette émission, Jérémy Besset qui l'a mixé en Dolby Atmos et Xavier Gibert qui l'a produite pour RFI Labo. A très vite dans vos oreilles.